Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Édouard Philippe, le Premier ministre, a donc précisé hier le calendrier de mise en œuvre des mesures annoncées jeudi dernier par le Président de la République. C'était à l'issue d'un séminaire gouvernemental élargi à un certain nombre de cadres de la majorité. Vous n'y étiez pas.
C'était les cadres en effet du groupe parlementaire, ouais. Président des deux groupes à l'Assemblée et au Sénat, et les présidents des commissions. Je pense que c'est un signal très positif de voir évidemment majorité exécutive comme ça travailler main dans la main.
Alors le Premier ministre a détaillé donc ce calendrier de manière chronologique, tout simplement. La première bataille qu'il entend lancer, c'est celle pour l'emploi. Dès la semaine prochaine, a-t-il dit, mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi. La mobilisation pour l'emploi, ça n'est pas la première fois qu'il en est question en France. Qu'est-ce qui va changer? Et pourquoi ça serait la bonne?
Mais déjà, la première chose qu'on dit qu'il faut travailler plus, c'est déjà permettre à chacun d'avoir la possibilité de travailler. Et donc, c'est lutter contre le chômage de masse. C'est ce qu'on fait notamment sur la question à la fois de la facilitation du recrutement, avec les fameuses ordonnances travail qu'on a votées dès le début, et sur l'enjeu de la formation professionnelle. Maintenant, il faut s'assurer, par exemple, sur la formation professionnelle, qu'on a largement simplifié, que tous les Français, notamment ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, les chômeurs de longue durée, par exemple, en bénéficie. Vous savez, c'est vérifier que la mesure qui a été votée, qui a été prise, dans le dernier kilomètre, elle est vraiment mise en application. Donc il y a cette urgence-là déjà de mieux former pour que les gens soient mieux en adéquation et aller chercher ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi parce qu'ils ne peuvent pas forcément venir spontanément pour plein de raisons. Et donc c'est, à mon avis, cette urgence-là qu'il va falloir avoir.
Alors au mois de juin, on devrait connaître les modalités de la baisse de l'impôt sur le revenu, a priori qui devrait bénéficier essentiellement aux classes moyennes, et qui sera financée par la suppression de niches fiscales pour les entreprises. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des idées, des pistes sur les niches fiscales qui pourraient être supprimées? Ce qui revient à augmenter les impôts pour les entreprises.
Alors, les impôts sur les entreprises, ils ont baissé. C'est-à-dire qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés pour le ramener progressivement dans la moyenne européenne. Mais il faut continuer à baisser l'impôt des Français, des contribuables, et notamment l'impôt sur le revenu. Et c'est celui notamment des classes moyennes qu'il est important de baisser parce qu'elles ont été très lourdement mises à contribution ces 10 dernières années. Il est important de baisser ces tranches-là d'impôts, ces 5 milliards d'impôts qu'on va rendre en fait aux Français. Sur les niches fiscales aux entreprises, il y a en effet un certain nombre de mécanismes qu'il faut évaluer. Ça, c'est le boulot des parlementaires pour vérifier leur utilité et pour vérifier surtout qu'elles bénéficient réellement ensuite à la création d'emplois. Quand on parle à chaque fois de réduction, de cotisation ou autre, il faut être sûr, s'assurer que toutes les niches, par leur complexité, par leur multiplicité, bénéficient aux entreprises qui embauche, qui recrute, notamment les TPE, les PME, et il faut lutter contre la fraude fiscale. Alors, c'est pas une niche fiscale, mais c'est une perte, c'est du vol, en fait. C'est du vol aux Français, c'est du vol à l'État, parce que c'est des gens qui devraient contribuer et qui, finalement, préfèrent s'en exonérer, et font un certain nombre de mécanismes très compliqués pour le faire. On a changé la donne, on a supprimé le fameux verrou de Bercy, qui empêchait, finalement, de mettre dans le droit commun la lutte contre la fraude fiscale. Donc ça, on l'a supprimé, et c'est notre majorité qui l'a fait. Et il va falloir maintenant...
Alors, ça doit aller plus loin, puisque le Premier ministre a annoncé hier qu'une lettre de mission serait transmise dès cette semaine à la Cour des comptes pour qu'elle fasse des propositions en matière de lutte contre la fraude fiscale. La fraude fiscale, alors, les chiffres sont très variables, mais... Ils sont estimés par certains entre 60 et 80 milliards d'euros par an, ce que ça coûterait, le manque à gagner en fait pour l'État. Certains disent même 100 milliards, d'autres parlent de 18 milliards. Bon, on voit bien que la fourchette est là.
Des estimations
différentes.
Mais
si on prend le milieu, ça fait une 40-50 milliards.
En tous les cas, c'est toujours trop.
C'est colossal.
Et c'est de l'argent qui est dû, encore une fois, à l'État et aux Français. C'est du vol.
Combien peut-on espérer récupérer?
Ah bah écoutez, le maximum possible,
oui,
évidemment.
Sûr, mais...
Bercy fait une estimation environ 18 milliards d'euros par an de pertes pour l'État français du fait de la fraude fiscale. Donc c'est cet argent-là qu'il faut aller récupérer. Et quand on parle évidemment de financement des mesures, on voit bien que là, on a une manne financière à récupérer et qui est encore une fois intolérable aussi dans notre République d'avoir des gens qui s'exonèrent de payer l'impôt qu'ils doivent aux Français.
Alors il y a la réforme de la haute fonction publique qui sera lancée dès demain, a dit Édouard Philippe. Elle sera conduite par Frédéric Thiriez, qui est un avocat, qui a été le président de la Ligue de football professionnel. Supprimer l'ENA, à quoi ça sert finalement? Parce qu'il va bien falloir malgré tout former des hauts fonctionnaires. Donc est-ce que c'est pas une espèce de symbole qu'on veut supprimer? Et au bout du compte, il y aura une nouvelle école de la haute administration qui sera un peu la même.
Alors, l'idée, c'est justement de diversifier le recrutement. Aujourd'hui, on voit bien au sein de l'ENA que c'est pas le système de formation qui est à remettre en cause. Évidemment qu'il faut des élites dans un pays. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas une reproduction sociale. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que ce soit pas les enfants de ceux qui ont fait l'ENA qui peuvent accéder à l'ENA parce qu'ils en ont l'information, la connaissance, parce qu'ils ont été dans les bonnes filières tout au long de leur vie. Et c'est cette diversité de recrutement qu'il faut absolument faire. Peut-être réunir aussi, en effet, plusieurs hautes écoles de formation. Et c'est vraiment cet enjeu. L'idée, c'est pas de dire il faut faire arrow ou faire un scalp des hauts fonctionnaires. C'est juste de dire il faut déjà s'assurer que les hauts fonctionnaires suivent concrètement les mesures qui sont déployées sur le terrain, soit plus sur le terrain, soit plus dans les administrations locales aussi, décentralisées. Ça, c'est quelque chose de très important.
Alors, à propos de la suppression de l'ENA, Nathalie Loiseau, qui est la tête de liste de La République En Marche pour les Européennes, se félicite de la suppression de cette institution et est revenue sur son passage à la tête de l'ENA, parce qu'elle a dirigé l'École nationale d'administration, je crois, entre 2012 et 2017. Et elle a eu cette formule. « Disons les choses, je n'ai pas été accueillie avec des fleurs en n'étant pas moi-même ancienne élève de l'ENA, femme de moins de 50 ans. J'avais l'impression d'être une romanichelle quand je suis arrivée à la tête de l'ENA. » Ce terme de romanichelle lui est reproché. Est-ce que vous considérez que c'est un propos un peu malheureux ?
Écoutez, moi j'ai l'impression surtout qu'on essaye de chercher en permanence à faire des procès de Nathalie Loiseau. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que notre liste Renaissance est en tête dans les intentions de vote des Français. Et moi je vois qu'on a des autres têtes de liste dont on oublie de dire à un moment qui ils sont. Je vois Yannick Jadot qui s'invente un passé glorieux, qui dit qu'il a organisé la marche en soutien à Malik Oussekine. Je trouve ça quand même assez dégueulasse, quoi, de s'inventer un passé qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas eu, surtout sur un sujet aussi sensible.
Ouais, Nathalie Loiseau, elle a l'oubli, son passé.
Non, Nathalie Loiseau, c'est quelqu'un que je connais, avec qui je travaille depuis 2 ans, c'est quelqu'un qui est crédible, qui est sérieuse et qui est sincère.
Elle a oublié qu'elle avait été candidate sur une liste d'extrême droite.
Elle a été candidate il y a 35 ans, étudiante. Non, mais arrêtez. Est-ce que vous vous souvenez exactement il y a 35 ans tout ce que vous avez fait? Non. Est-ce que c'est ça l'idée d'une campagne, d'essayer d'aller chercher la moindre petite chose?
Mais Romanichel, le terme,
attendez,
bien choisi, vous trouvez ?
La question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe ? Est-ce qu'on veut une candidate qui est sérieuse, qui est crédible, et une liste d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de l'Europe ? Ou est-ce qu'on veut un candidat, par exemple, qui s'invente un passé qu'il n'a pas eu, qui est le cas de Yannick Jadot, avec ce que je vous disais sur la marche pour Malik Oussekine qu'il n'a pas organisé. Est-ce qu'on veut la liste LR qui se dit extrêmement sincère et qui, soi-disant, sait faire des choix, sait arbitrer ? François-Xavier Bellamy, on oublie qu'il était candidat aux législatives, qu'il n'est donc candidat aux européennes que parce qu'il n'a pas réuni les suffrages aux législatives. Et accessoirement, il fait partie de cette droite qui a refusé de choisir au second tour de la présidentielle entre l'extrême droite et un candidat républicain. Donc c'est ça, les choix qui sont devant les Français.
Bon, donc Romanichel, c'est pas grave.
Mais j'ai l'impression qu'en permanence,
vous ne voulez
cherche
pas répondre sur le mot.
Mais si, je veux bien répondre. Alors, mais à un moment, c'est pas le sujet. J'ai l'impression
que. Si, c'est ma question.
Bah, très bien, mais moi, ma réponse, c'est de vous dire qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on cherche en permanence à faire procès à Nathalie Loiseau, tout simplement parce qu'elle est en tête des intentions de vote des Français, qui veulent peut-être qu'on arrive à réussir à changer l'Europe avec des gens sincères, qui y croient, qui sont pas là pour du recasage, qui sont pas là pour du recyclage, qui sont là pour changer réellement l'Europe. Et c'est ça qui m'importe.
Il nous reste 40 secondes. Est-ce que vous êtes inquiète sur ce qui va se passer demain, journée de mobilisation du 1er mai ?
En tout cas, je suis déjà en soutien de nos forces de l'ordre qui sont soumises à très rude épreuve depuis de nombreuses semaines, et on l'a souvent dit à votre micro. Je suis heureuse aussi de voir que certains qui avaient cru bon d'attaquer nos policiers avec des slogans haineux d'appel au suicide, que certains aient pu être condamnés. Je pense que c'est important pour nos forces de l'ordre. Je sais que la doctrine de maintien de l'ordre a aussi été changée, que tout est fait pour garantir la sécurité des Français demain et la sécurité aussi de celle qui veut sincèrement manifester.
Merci Aurore Berger.
Merci à vous.
Bonne journée.